Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Christian Poyot, PDG de Micropole, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, chargé d'enseignement à l'Université de Strasbourg, qui a coécrit Un robot dans ma voiture, prendre le virage du véhicule autonome chez MA Édition. Philippe Trénard, professeur OCNAM, membre du Cercle des économistes. On se retrouvera début juillet, du 5 au 7, à Aix-en-Provence, pour les 24e rencontres économiques. Des réactions, évidemment, que l'IR est un mauvais impôt. Pourquoi croyez-vous qu'il y a tant de cadres de haut niveau qui vont à l'étranger et ne rentrent pas, m'écrit Tony Truon, c'est son nom de... Suzy Sozo. La réforme de l'assurance chômage est indispensable, on ne travaille pas assez. Voilà, tout le monde connaît quelqu'un qui profite du système et vit de l'assistanat. Il y en a d'autres qui pensent pas du tout ça. Hein. Le chômage est une assurance à laquelle on cotise, m'écrit Guillaume, mais qui est à l'équilibre, retirer des droits sans baisser les cotisations, ça s'appelle un impôt. Et Nordine trouve qu'on est tous du même avis, que c'est pas drôle. Et lui, pour lui, la réforme des allocations chômage, c'est dogmatique, m'écrit-il. Bon, vous voulez dire encore un mot sur l'impôt sur le revenu?
Oui, je crois qu'il faut dire la baisse du prélèvement sur les dividendes.
Le prélèvement forfaitaire unique de 2017.
Voilà, le prélèvement forfaitaire unique. D'accord. Qui vient s'additionner quand même à l'impôt sur les sociétés, n'oublions pas. Et à cet intérêt-là, c'est qu'il a permis d'avoir plus de capital en francs. Or, c'est ce dont nous manquons absolument. D'ailleurs, le Trésor et la Banque de France sont en train de réfléchir à relancer le marché unique des capitaux, n'est-ce pas ? Parce que, tout simplement, nous manquons de capitaux et nous manquons de capitaux pour, n'est-ce pas, rentrer dans la compétition sur les technologies nouvelles, pour faire face au changement climatique, n'est-ce pas ? Et éventuellement, peut-être aussi, pour assurer notre défense.
Le prélèvement forfaitaire unique à 30%, donc qui reste quand même supérieur à la moyenne de ce qui est pratiqué dans les autres pays, mais en France, c'est quand même rapproché de quelque chose d'acceptable par rapport à ce que nous
pratiquons. Avec des effets au total positifs.
C'est sûr que taxer le capital comme le travail sous François Hollande était une drôle de décision politique quand même. Il y a un moment, il faut voir si la fiscalité a des effets positifs ou négatifs. Parce que la fiscalité peut avoir à l'arrivée des effets négatifs.
Et si vous savez, les études économiques montrent quand même qu'on est près de ce qu'on appelle le point de l'affaire, c'est-à-dire où la réaction de l'activité à la hausse à une hausse de la fiscalité est telle qu'au total, votre hausse des taux n'apporte pas vraiment de recettes.
Les autos,
et c'est la France.
Oui, c'est les autos, tu les totos.
Et la France est l'un des rares pays qui est dans ce cas.
Il y a des économistes qui contestent le fait que la courbe de l'affaire soit une réalité.
En fait. C'est empirique, la question. Il n'y a pas de théorie dedans. Là, vous avez une très très bonne empirique qui a été faite par le Luxembourg Institute et qui est vraiment assez convaincante.
Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on a connu la rigueur fiscale sous François Hollande, donc au début de son quinquennat, on a vu des effets quand même. On a vu des effets, notamment des professions libérales où les gars arrêtaient de bosser le vendredi parce que c'était pas la peine.
On a vu les capitaux et les problèmes de la balance des capitaux.
Vous vouliez dire un mot, Erwan Tison, de l'absentéisme. On en a un peu parlé dans cette émission. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène. On a des niveaux d'absentéisme qu'on n'avait jamais observés par le passé. Alors tout le monde essaie de trouver l'explication. Je trouve que c'est un peu court. Ah bah oui, il y a eu Covid, donc notre relation au travail a changé. C'est un peu ce qu'on entend régulièrement comme argument pour nous expliquer pourquoi l'absentéisme a connu des sommets et continue à connaître des sommets.
Oui, c'est un sujet qui est pas récent. Laurent Capelletti, professeur OCNAM, avait publié une étude à l'Institut Sapiens en septembre 2019, justement, sur les causes et les raisons de l'absentéisme.
En 2019
En 2019.
Donc avant Covid.
Avant le Covid. Ainsi que sur le coût. Il avait estimé avec son collègue Henri Saval que ça coûtait 100 milliards d'euros par an à l'économie française. Je pense que c'est un phénomène de long terme, un phénomène vraiment qui profond dans la société française, cet absentéisme-là. Je suis pas sûr que les Français soient devenus des fainéants.
Non, il y a des, je vois pas pourquoi.
Il y a de l'optimisation, effectivement. Il y en a certains qui ont trouvé le bon médecin traitant parce qu'on se refile le.
Mais c'est pas nouveau, ça.
Non, bien sûr que c'est pas nouveau, mais je pense que
c'est Guillaume Richard nous racontait comment, là où il a des quantités de salariés, il y a un médecin dans la région qui signe à peu près l'essentiel des arrêts de travail
et qui prend 20 consultations par heure et que.
C'est peut-être un peu français quand même, je veux dire, ce genre de choses.
Oui, non, mais je, tout ça existe. Mais pourquoi soudainement un phénomène d'emballement donc.
Je pense que c'est notre rapport aussi au travail et surtout au management qui est en train de changer. L'IFOP a publié il n'y a pas très longtemps une étude assez éclairante sur le rapport qu'ont les Français, les salariés à leur emploi. La question était la suivante, je me permets de citer les chiffres.
Allez-y.
Est-ce que vous avez le sentiment que votre travail est reconnu à votre juste valeur par votre entreprise et votre hiérarchie ? Les Américains répondent oui à 45%, les Allemands oui à 31%, les Britanniques oui à 19% et les Français oui à 9%. Il y a un paradoxe qui est assez intéressant. L'OCDE publie chaque année justement des études liées à la vision du travail. Les Français sont parmi tous les pays de l'OCDE les salariés qui mettent la valeur travail la plus élevée parmi comme valeur cardinale, comme valeur de société. Par contre, ce sont les premiers également à, dès qu'on leur dit est-ce que vous avez la possibilité de quitter votre travail plus tôt, que ce soit à la fin de la journée, à la fin de la semaine ou à la fin de votre carrière, sont les premiers à dire oui. Donc c'est-à-dire que non, on voit l'importance du travail, mais on se sent de plus en plus mal dans son travail. Pourquoi ? Et là, je pense qu'on va revenir sur le sujet de la formation. Il y a aujourd'hui un vrai problème de management en France. Je cible pas les managers, je dis de management à toutes les strates. On a les pires managers en Europe. Ça a été à la fois sourcé dans la littérature académique, mais aussi de manière empirique. Vous avez en plus toute une branche académique qui est en train d'émerger là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne forme pas aujourd'hui des managers. Un bon technicien devient automatiquement manager et n'a pas les clés pour faire ça. Or, je parle sous contrôle de Christian, manager, ça s'apprend. Manager, c'est un vrai métier. Manager, c'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on a été bon dans son.
Et on est particulier par rapport à ce.
On est très mauvais et c'est ça qui explique l'absentéisme. L'absentéisme, c'est quoi ? C'est pas que le mal-être au travail. L'absentéisme, c'est mal anticiper un congé maternité et ne pas le remplacer durant les 10 semaines de congés qui sont associés. L'absentéisme, c'est mettre une personne qui a des qualifications pour tel et tel poste pour des qualifications X sur un poste qui demande des qualifications Y. C'est-à-dire qu'en fait, l'absentéisme, comme on le mesure en économie, c'est de se dire que l'entreprise va perdre en création de valeur parce que la personne est soit pas là, soit absente, soit au mauvais poste. Et en fait, on voit que ce phénomène ne cesse de s'amplifier, tout simplement parce qu'on n'arrive pas, à comprendre, parce qu'on n'a pas justement bien formé nos managers, que le rapport au travail a changé, qu'il y a une demande d'autonomie qui est de plus en plus grande chez les salariés et qu'il y a justement un besoin en qualification beaucoup plus accru pour pouvoir mettre en face les personnes, qu'elles se sentent valorisées par rapport justement à ce qu'elles sont capables de faire. Et le cas échéant, de pouvoir leur apporter le supplément de formation pour leur permettre de réaliser une fonction qui ne cesse d'augmenter dont l'exigence ne cesse d'augmenter en termes de technicité. Dernier chiffre par rapport à ça, les entrées en formation ont baissé de 20% depuis 2018 par rapport aux actifs, pour les actifs. Et donc du coup, ça accentue ce mal-être-là parce que la première cause du mal-être et de la non-reconnaissance au travail, c'est de dire « je ne suis pas suffisamment qualifié pour faire ce que je suis en train de faire ». La plupart du temps, le manager se dit « si jamais j'envoie ma personne en formation, je vais la perdre pendant un jour, deux jours, trois jours. Et puis en plus, je vais la former si jamais après elle part, je vais du coup avoir formé quelqu'un dont mon concurrent va profiter des nouvelles compétences. » Et ainsi, donc je préfère qu'elle soit mauvaise sur son poste plutôt que je la forme et qu'elle soit bonne derrière. C'est un vrai problème qui à la fois nuit à la cohésion sociale, nuit au bien-être au travail et qui du coup, à mon avis, si on ne le résout pas maintenant, ne va aller qu'en s'accentuant. Et je rappelle la facture, 100 milliards en 2019 qui ne cesse de s'accentuer, qui progresse d'environ 3% par an.
Christian Poyot, par rapport à ce qui a été dit sur...
On pourrait faire des heures sur le point.
Est-ce qu'on est particulièrement mauvais en management en France ?
Je vais essayer de répondre, essayer.
Alors moi,
je n'ai pas regardé l'étude, mais j'avoue que j'aimerais bien m'y pencher un peu, parce qu'après, c'est vrai qu'il faut l'analyser entre l'école bleue et l'école blanche. Alors, une expression un peu old school, j'en conviens. Parce qu'entre les gens qui peuvent être en télétravail et tous ceux qui ne peuvent pas l'être, il y a déjà quand même une grande différence. Après, il y a entre les cadres et les non-cadres, etc., etc. Bon. Maintenant, si je prends mon cas entre guillemets de Micropole, nous on est des cadres à 95% et puis il y a beaucoup de télétravail, etc. Il y a quand même effectivement un absentéisme qui a progressé d'une manière générale. Bon, par rapport au pré-Covid, si j'ose dire. Bon, ça c'est la première remarque. Le sujet du management. En fait, le management, je peux pas dire que ça s'apprenne réellement, parce que faire du management, c'est de la gestion j'aime pas le mot gestion, mais c'est coordonner des actions d'être humain. Donc, par nature, l'être humain est très complexe. Donc, il faut pas faire petit 1, je fais ça, petit B. Il y a des choses à éviter. Ça, c'est évident.
Il y a comme sûrement, des routines à connaître.
On peut former plus. Où je vous rejoins, c'est que, effectivement, dans les écoles, y compris les grandes écoles, quelles qu'elles soient, l'école de commerce ou l'école d'ingénieur, cette notion de management, elle n'est pas prise en compte, si j'ose dire. On apprend les théories, alors économiques ou physiques ou mathématiques, ou l'extra, mais cette notion de management n'est pas prise en compte. Ce qui fait que très souvent, vous avez des gens qui sont très brillants sur leur domaine précis. aussi. Mais quand vous leur demandez de manager 10, 20, 50, 100, 500 ou plus personnes, ils ne savent pas le faire, entre guillemets.
C'est vrai que ça existe.
Donc ça, c'est un problème. Est-ce que c'est foncièrement différent dans les autres pays? C'est là où je diverge peut-être par rapport à ça. Je ne sais pas. Je vais être tout à fait honnête, je ne sais pas. Il y a quand même un rapport au travail qui est quand même un tout petit peu différent. Puis après, le gros sujet, moi, j'aimerais bien qu'on analyse entre secteur public et secteur privé, globalement. Hein. Il y a encore des gens dans le secteur public qui ne bossent même pas 35 heures, hein, qui bossent 32 heures et qu'on leur dit qu'il faut bosser à 35 heures. Ils ne veulent pas le faire. Et l'absentéisme dans le secteur public, je crois, sauf erreur, qu'il a augmenté de manière très, très importante. Largement plus que dans le privé, voilà. Donc on débouche quand même là, en dehors des sujets qu'on a pu évoquer, vrai, de management, de changement de rapport au travail ou des choses comme ça, et puis entre les gens qui peuvent être en télétravail ou non, sur une culture et une vision du travail qui est différente selon les secteurs, et le secteur public, sans vouloir le stigmatiser, parce qu'il y a plein de gens qui sont remarquables, oui, et qui font leur boulot, oui, enfin il y a un rapport au travail qui est différent par rapport au secteur privé. Voilà. Donc c'est pour un peu pas diverger par rapport à ce qui a été dit, mais en tout cas le nuancer ou faire une analyse peut-être pas globale, mais plus précise par secteur et domaine d'activité.
Si vous me permettez, c'est juste un problème de management qui est encore pire dans la fonction publique que dans le secteur privé. C'est le mal-être au travail, pour le coup, dans les catégories C qu'on pressurise et qu'on demande, enfin à qui on ne donne aucune perspective d'avenir et qui sont obligés de gonfler leurs heures supplémentaires justement pour obtenir 100 euros en plus parce que justement elles n'ont pas la possibilité de grimper dans l'échelle, qu'on leur donne aucune responsabilité en plus, c'est catastrophique.
Oui, mais parce qu'il y a aussi une progression uniquement à l'ancienneté.
Ah, mais bien
si
sûr,
vous
bien
prenez
sûr.
Sur l'ancienneté, donc faut prendre un poste.
Ancienneté et diplôme.
Il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience professionnelle, mais qui ne sont pas capables de manager. Ce n'est pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire telle chose, mais ils ne sont pas capables de manager.
On verra jusqu'où ira la réforme de la fonction publique que prépare Stanislas Guérini. Les différents éléments qui remontent donnent l'impression que c'est une réforme qui se veut très audacieuse par rapport à ce qui a pu être fait par le passé. Mais enfin, on verra ce qu'il restera.
Déjà, la rémunération au mérite, c'est quand même un point.
Il y a la rémunération au mérite. Évident, mais justement, il y aura probablement des décisions sur les jours de carence. Ouais. Et il est probablement aussi question de supprimer les catégories A, B et C de la fonction publique, ouais, qui sont un peu antédiluviennes quand même, oui, aujourd'hui. Il y a un auditeur qui me dit, oui, on travaille peut-être moins parce qu'on n'est pas assez payé.
Ah oui, mais alors on travaille d'abord, on prouve qu'on génère de la valeur et après on vous augmente. Hein. C'est comme ça que ça marche dans le privé.
En fait, je pense que on a surtout un problème de salaire net.
Oui, bien sûr. Ah, mais ça,
plus qu'un problème de salaire.
Ça, oui, mais tu as raison sur ce point de vue-là, mais ça, on retombe sur le sujet
mais
des
impôts d'accord que
et le poids de l'État. Hein.
Tout travail mérite salaire, mais tout salaire mérite travail, comme disait Yvon Gattaz. Oui, Philippe Trénard, là-dessus.
Moi, j'ai quand même trois remarques, effectivement, pour nuancer, pas pour contrer ce que vous avez dit, mais pour le nuancer. Tout d'abord, le secteur public, effectivement, est un point où se localise beaucoup l'absentéisme. Or, nous sommes dans un secteur où les gens sont les plus formés. Hein. Deuxièmement, ce ne sont pas les secteurs où ils sont les moins bien payés. Ces fameuses catégories C, B sont beaucoup mieux payées dans le secteur public que dans le secteur privé, ce qui est beaucoup moins...
Beaucoup mieux...
Ah, beaucoup mieux, ah oui,
non, ça,
toutes les enquêtes le montrent, et surtout, alors, les catégories C, le secrétariat, c'est quand même le jour et la nuit. Inversement, ceux qui sont beaucoup moins payés, ce sont les cadres. Alors, peut-être est-ce une raison pour laquelle ils n'encadrent pas bien, voilà. Je crois qu'il y a un deuxième, quand même, problème, la formation, oui, mais quand même, en moyenne, la France est le pays où on rentre le plus tard sur le marché du travail, et on a les plus longues études. Donc là, on se retourne, est-ce qu'on a la formation qu'il faut?
Parce c'est pas tout le monde de la vie, c'est ça, hein, le problème, c'est qu'on fige, un destin à 20, 25
ans. Voilà, mais quand même, on a... Et troisièmement, moi, ce qu'on observe, c'est que les grandes boîtes internationales qui ont pour partie des salariés français se trouvent confrontés au même problème, alors que le management est international et a probablement été mieux formé qu'en France. Je crois que c'est vrai, c'est la remarque que vous faites qui est vraie. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas que cette question-là, qu'il y a d'autres pistes qu'il faut explorer. Alors je ne suis pas un spécialiste de la question et je me garderai bien d'avancer sur ce terrain délicat, mais il y a un vrai problème et je pense que la question de la formation est... formation de l'encadrement à encadrer et formation des encadrés n'épuise pas de loin le sujet. Si c'est un facteur fondamental.
Mais avec un point derrière, une incidence économique qui est celle de la productivité. On a publié il n'y a pas longtemps une étude sur nous on a identifié 5 facteurs à la baisse de la productivité en France. Celui sur le management, on l'avait identifié comme étant à peu près responsable de 10% de la baisse de la productivité. Moi, je pense qu'on va peut-être refaire cette étude-là bientôt, mais je pense qu'en fait, le facteur est peut-être plus important parce que le problème de il y a la question du salaire. Quand je dis management, c'est tout. Hein, c'est la progression de carrière, la rémunération, etc., qui ne dépend pas toujours que du des managers, mais quand on regarde, on fait juste une corrélation entre l'endroit où la personne a le salaire net, les pays où le salaire net est le plus élevé, les pays où justement il y a, par rapport à ces données qualitatives, un bien-être au travail supérieur à chez nous et la productivité, on voit que la productivité est supérieure dans ces pays-là. Donc il y a peut-être aussi une incitation peut-être à aller chercher un peu plus d'efficacité dans son travail dans ces raisons-là.
Mais il faudra quand même bien prendre la mesure du fait que, après le Covid, au fond, les Français ont réagi un peu différemment des Anglo-Saxons. Les Anglo-Saxons travaillaient plus à partir du domicile, les Français, au fond, un peu moins, mais il y a eu aussi plus d'absentéisme. Et il faut le relier, naturellement, comme vous le dites, à la question de la productivité, parce que la France est l'un des rares pays, c'est que parmi les quatre seuls pays de l'OCDE,
où
la productivité
spéciale
baisse depuis 2015, et ça s'est accéléré avec le Covid.
Comme dit Christian Poyot, l'être humain est une matière complexe, et donc ce sujet de l'absentéisme, c'est complexe à analyser et complexe à régler.
Absolument.
Je voudrais vous citer, pas forcément pour vous faire réagir, mais quand on remet des églises au milieu du village, je trouve ça pas totalement inutile. Donc il y a cette commission pilotée par Philippe Juvin pour les Républicains pour essayer de comprendre comment la dette a pu exploser. Et elle a entendu hier le président du conseil d'administration de la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Il rappelle des choses évidentes mais qui ne sont pas rappelées si souvent. Il dit pourquoi est-ce qu'on a fait un budget sécu et un budget État ? Parce que c'est pas la même chose. Normalement, le système de protection sociale, dit-il, il avait vocation à ne pas accumuler de la dette, contrairement à l'État. Il s'appelle Jean-Louis Rey, il rappelle que les dépenses de sécurité sociale ne sont pas des dépenses d'investissement, que ce sont des dépenses courantes et que ces dépenses courantes ne doivent pas être financées par l'emprunt. C'est juste pour le rappeler. Et depuis 1996, date de sa création, la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, donc, porte une dette. Et cette dette est une anomalie. Et l'extinction de la CADES a été plusieurs fois repoussée. La première date d'extinction de la CADES, je crois que c'était 2009. Désormais, sa disparition, si tout va bien, est prévue en 2033. Pas mal de rappeler qu'on a un système social qui normalement devrait être à l'équilibre. Ça vous inspire une réaction, Philippe ?
Oui, non, le directeur de la CADES a tout à fait raison.
C'est bien de rappeler des choses comme ça.
C'est absolument pas normal. La politique sociale, elle vise à faire participer les personnes qui n'en ont pas les moyens parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils ont subi un certain nombre d'événements négatifs, à les faire participer à la richesse sociale. C'est pas à anticiper une richesse qui n'a pas été créée et qui ne sera peut-être jamais créée, surtout si la productivité baisse. Donc ce n'est pas normal que l'on soit endetté au titre de la dette sociale. Deuxième point, c'est que la dette de la CADES, ça sous-estime largement aussi la dette. Il y a toute cette dette, en fait, que nous ne voyons pas, qui est celle liée au régime de retraite des fonctionnaires, n'est-ce pas ? Et qui se retrouve, en fait, dans la dette de l'État, qui est appelée dette de l'État, et qui en fait une dette sociale. Dette sociale qui est liée, au fond, qui accroît le coût du fonctionnaire dans des proportions incroyables, puisqu'on l'accroît, c'est quand même implicitement de ce fait de 70% à 120% selon qu'on en est civil ou militaire. Donc des chiffres absolument aberrants.
Là, vous parlez du rôle de l'État employeur
de fonctionnaires.
Surcotise de manière absolument astronomique pour la retraite
des agents
publics.
Et comme c'est financé par la dette de l'État, la dette sociale est encore plus importante. Et là, c'est un petit peu vertigineux. Ça reste le vrai problème. C'est dommage. Les gouvernements actuels
cette surcotisation de l'État employeur qui est astronomique aux alentours de 70% quand normalement
pour les fonctionnaires civils et 120% pour les militaires.
Quand un employeur normal du privé cotise 17% ou 16,5%, c'est une espèce de face cachée de l'iceberg de la dette sociale qui est absolument colossale. Le corps le sait mais ne veut pas en tenir compte.
Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que on va pas refaire le débat sur les retraites d'il y a
quelques années.
Mais d'ailleurs c'est amusant de voir comment le corps a quand même évolué. Il a changé de directeur,
c'est Gilles Berset
qui amène, je pense, un peu plus de rationalité. Pas de vision dogmatique ou surtout politique, quoi que ce soit, mais de rationalité. Voilà. Donc, quand est-ce qu'on regardera les choses en face ? C'est de ce point de vue-là complètement hallucinant, on est bien d'accord. Mais les montagnes d'émotions qui ont été faites parce qu'on est passé à 64 ans, alors qu'on sait qu'il va falloir passer à plus dans un laps de temps relativement réduit. Donc, on retombe sur un sujet qui est une évidence. Enfin, c'est en face de nous, c'est crucial. Et une bonne partie de la classe politique refuse de voir le sujet et de le traiter face aux Français.
Il y a Vivatech en ce moment, Christian Poyot. Donc à cette occasion, Emmanuel Macron a pris la parole depuis l'Élysée. Il a annoncé
j'ai envie de dire, un petit investissement public pour plus que doubler le nombre de personnes formées à l'intelligence artificielle. Mais à cette occasion, il a dit « Je veux une France championne de l'intelligence artificielle ». Quand je regarde l'histoire, la matière grise française, elle est ultra présente dans les grandes évolutions technologiques. C'est un Français qui crée le disque dur, c'est un Français qui invente le protocole Cyclades, qui va devenir TCP/IP, et à la fin c'est Internet. C'est un Français qui invente l'iPhone de Steve Jobs entre 2000 et 2007.
Et carte à puce.
Et iOS, qui va fonctionner avec l'iPhone, la carte à puce. On se dit, mais oui, effectivement, on a toutes les chances de pouvoir être un champion de l'IA. Et pourtant, chaque fois, on se désespère quand on voit que finalement, les vraies réussites business opérationnelles sont ailleurs.
Non, mais aujourd'hui, on est quand même, toutes choses égales par ailleurs, un champion de l'IA, si j'ose dire. Quand on regarde au niveau européen, les études prouvent que, alors, il y a une compétition, il y a photo arrivée avec Londres, mais la dynamique du tissu sur l'IA. Alors, quand on dit IA, il faut parler de manière générale. On parle tout le temps en ce moment de Gen AI, mais il n'y a pas que la Gen AI. L'IA, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, voilà. Et quand on regarde, encore une fois, la position de la France sur ce sujet-là, on est bien placé. Alors, si on se compare aux États-Unis qui sont un marché unique, qui ont une dimension de capitalistique qui est 10 fois supérieure à celle de la France, l'âge de l'Europe, c'est beaucoup plus complexe, si j'ose dire. Mais faut pas rêver, on peut pas dire qu'on va devenir plus fort que les Américains sur la partie IA. Voilà. Maintenant, je pense que dans la situation dans laquelle est l'écosystème français, on est quand même très bien placé. Voilà, on peut certainement faire encore mieux. Alors, le point fort, on le connaît, c'est qu'on a effectivement des écoles d'ingénieurs très brillantes. Il y a un tissu entrepreneurial. Oui, tout à l'heure, on parlait de l'absentéisme, mais n'oublions pas que la France est un pays à la base d'entrepreneurs. Enfin, je crois que c'était avant 14, le nombre d'entrepreneurs était déjà très largement supérieur. Enfin,
c'est un mot français que les Américains.
Oui, c'est un mot français, selon l'expression de Bush. Qu'est-ce que veut dire le mot entrepreneur, etc. Donc il y a un dynamisme qui est très fort. Je vais être à Vivatech juste à la sortie de cette émission. La French Tech est une réussite, etc. Donc il ne faut pas non plus se lamenter par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous manque ? Il nous manque le fait de garder les talents. Ça, c'est. Enfin, qu'est-ce qui nous manque ? Plutôt, sur quoi on peut agir ? Parce que l'écosystème américain, il y a 400 millions de personnes. On ne va pas le traiter du jour au lendemain. Alors, il y a un sujet qui est à nouveau bassement fiscal. C'est que le coût des salaires, il est pas. Enfin, les charges patronales ne sont pas plafonnées, d'accord ? Et encore une fois, si on compare l'Allemagne, on peut avoir 5 ingénieurs en Allemagne, alors qu'en France, on n'en aura que 4 ou 3,8 parce que le coût du travail est supérieur. Donc, c'est tout bête, mais c'est une capacité pour ne. Enfin, ça nous bloque dans. Non, le.
C'est pas tout bête. Je rappelle un chiffre qui a été calculé par l'IFRAP. Si on avait le même système de plafonnement des cotisations sur les salaires qu'en Allemagne, la partie au-dessus de 3,5 SMIC en France paierait 24 milliards de cotisations en moins.
Oui, mais
24 milliards par an.
C'est colossal. Parce que très souvent, les cotisations sociales en Allemagne sont les mêmes, oui, sauf qu'elles sont plafonnées au-delà d'un certain montant. Pour que nos auditeurs comprennent mieux de manière générale. Donc, alors, à nouveau, on va dire, c'est un patron, il parle de fiscalité, etc. Mais c'est une réalité.
Non,
donc,
mais c'est une réalité.
Vous implantez.
Le déplafonnement est une
réalité. Vous implantez un centre de recherche, vous l'implantez en Allemagne, vous allez avoir X% d'ingénieurs en plus que ce que vous avez en France de manière générale. Bon. Et puis après, il y a le sujet des capitaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui démarrent. Maintenant, à un moment donné, il faut de l'argent, il faut lever des fonds, il faut faire des séries A, B, C, etc., etc. Bon, là, il n'y a pas suffisamment de capacité de force de frappe en France. C'est pour ça qu'il faut raisonner au point de vue européen. Et là, on retombe sur un sujet qui a été évoqué tout à l'heure, le marché des capitaux ou peut-être des concentrations de grands acteurs financiers. Donc là, il faut agir, mais pas uniquement au niveau français, bien évidemment. Il faut qu'on agisse au niveau européen.
Donc il faut améliorer l'accès au financement et l'accès aux compétences.
Voilà. Et après, il y a un autre sujet, si on veut à nouveau parler de fiscalité, qui est le sujet des retraites, où en France, on ne fait que de la retraite en répartition et pas en capitalisation. Donc on perd une partie de financement qui, aux États-Unis sert sur ce genre de choses.
C'est l'arme de guerre, le fonds de pension. C'est l'arme de guerre pour avoir les montants correspondants aux ambitions.
Par habitude, je suis toujours optimiste et il faut l'aide d'une manière générale. Je pense que la France a une place qui est quand même significative par rapport, encore une fois, aux contraintes qu'elle subit aujourd'hui. Voilà. Et Vivatech est une très grande réussite. C'est le salon européen.
Oui.
J'ai des personnes de Micropole qui étaient déjà hier. Il y a de plus en plus de sociétés étrangères qui sont présentes. Donc ça, c'est une réussite.
Vivatech est à la tech, parce que le festival de Cannes est au cinéma et c'est vraiment le CES à la française.
On est bien d'accord. Oh, c'était avant le Covid, ça fait bien plus de 10 ans.
Ça va faire une bonne dizaine d'années, oui. Ouais. C'est né dans une discrétion parfaite, et puis c'est devenu effectivement un rendez-vous de référence. Oui, Philippe Trénard, on a 2 minutes 15.
Oui, 2 minutes 15. Je vais dans le sens, le point de vue d'un entrepreneur, le point de vue d'un économiste, c'est qu'effectivement, on a un problème, on a la capacité, mais la capacité reste insuffisamment en France. Les cerveaux de haut niveau partent à l'étranger, et les start-up, quand elles atteignent un certain niveau, ben elles sont rattachées par des californiennes. Et je crois que là, vous avez bien
Philippe,
dit...
Philippe, ça fait 15 ans qu'on le dit.
Oui, il faut.
Le early stage, tout va bien, la vallée de la mort, et c'est fini.
Il faut être beaucoup plus incitatif au niveau du capital pour qu'il reste en France, au niveau des compétences pour qu'elle reste en France. Nous ne sommes pas capables de faire venir un ingénieur de haut niveau de Suisse en France sans avoir à augmenter le coût de ce salarié de 30 à 40%.
C'est l'histoire du plafonnement des cotisations.
Donc ça ne va pas. Voilà. Et je crois, pour le capital, c'est ce qu'a dit Christian, et je pense que le Trésor a tout à fait raison, la Banque de France a raison, le rapport Noyer est excellent. Il faut le marché des capitaux.
Le marché des capitaux
va nous aider, et un petit peu aider justement, et apporter un petit peu sa contribution. Mais en même temps, aide-toi, le ciel t'aidera, il faut de l'incitation française.
On a mis combien de temps à faire l'union bancaire? On a mis et c'est pas tout à fait fini. Voilà, et donc l'union des marchés de capitaux. Bon, effectivement.
Oui, mais on en a besoin.
Évidemment. Oui, on en a besoin. Enrico Letta le dit. Je pense mais que Mario Draghi au mois de juin, quand il va remettre effectivement.
Mais c'est pour ça que nous ne couperons pas au débat sur l'incitation si nous voulons que la tech vienne en France.
Après, Paul McCarthy le disait déjà dans les années 60. Il nous faut justement une.
Oui, oui. Absolument.
Juste la chaîne de la valeur de la tech et notamment de l'IA, elle est très large. Ça part des puces. On a vu Nvidia là, qui publie les résultats records. Il y a tout ce qui est effectivement les moteurs LLM ou enfin l'IA de manière générale, là, c'est GenAI. Et après, il y a la data. Et la data sur le sujet français / européen, on a une place à prendre. Donc, faut pas raisonner sur un sujet qui est peut-être le plus emblématique, mais il faut raisonner sur l'ensemble de la chaîne de la valeur. On a plein de choses à faire.
On a quand même un problème avec les données personnelles. La limitation des données personnelles fait que les technologies de contrôle des derniers personnels, de la non-fuite, etc. Puisqu'on ne peut pas les utiliser en France, en Europe, elles ne sont plus en Europe, elles sont aux États-Unis. Donc on a un vrai problème. Trop interdire, c'est aussi tuer.
Merci. On est quand même revenu deux fois aux retraites, Nicolas, dans cette émission, sans parler des retraites.
Oui, oui, oui.
Des fonds de pension absents.
Oui.
Mais on n'a pas parlé des retraites.
On a épargné les retraités et la question intergénérationnelle, mais on en a déjà parlé. Bon. Tous les jours, quand même, parce que bon, je ne vais pas martyriser.
Non, mais même quand on ne veut pas en parler, on arrive.
Oui.
Preuve qu'il y a un sujet économique là-dessus.
Et vous avez vu, je ne vous ai pas interrogé sur la désindexation des pensions de retraite en 2025. Je me suis dit, si je lance Erwan là-dessus, on est mort. Bon, c'était Christian Poyot, c'était Erwan Tison, Philippe Trénard. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.